bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux équations de Navier-Stokes. J'ai réécrit ici les équations de Cauchy pour un milieu incompressible. Ici, nous allons travailler dans le cas d'un fluide incompressible, ou plutôt d'un écoulement incompressible, c'est-à-dire dans le cas où la masse volumique peut être considérée comme une constante pour un exercice donné. En fait, elle dépend de la température, mais on est à température constante dans chacun des problèmes qu'on va se poser. Donc, nous avons une équation de continuité qui s'écrit div de U égale 0, et l'équation de quantité de mouvement Cauchy démontrée dans la précédente vidéo. Nous avons vu que cette équation est valable quel que soit le milieu continu qui est à l'étude, et que nous devons nous donner une loi de comportement pour exprimer sigma en fonction des dérivées de U. Eh bien, si nous regardons ce que signifie sigma du point de vue mathématique, c'est un flux, parce que lorsque nous avons une quantité qui se présente sous la forme d'une divergence, ici divergence de sigma, nous savons que son intégrale sur un élément de volume, sur un patatoïde de contrôle, s'écrit comme l'intégrale sur le bord de sigma fois n. Et sigma fois n, c'est le vecteur contrainte t. Donc nous voyons que tout terme sous la forme d'une divergence ne contribue pas au bilan total de la quantité d'intérêt, mais ne fait que redistribuer dans l'espace la grandeur d'intérêt au cours du temps, puisque ça se ramène à une intégrale de bord. Et ça vient du principe d'action-réaction, nous l'avons vu, lorsque nous avons démontré l'existence d'un tenseur des contraintes. Eh bien, puisqu'il s'agit d'un flux, en fait, sigma représente tout simplement le flux de quantité de mouvement. Alors, pour être vraiment précis, c'est l'opposé de sigma qui représente ce flux. Un flux de quantité de mouvement, voilà ce que signifie une contrainte. Bon, quand on a un flux, par exemple un flux de chaleur dans un milieu conducteur, on sait que le flux de chaleur, que souvent on appelle Q, peut être modélisé par la relation de Fourier, Q égale moins un coefficient fois le gradient de la température. Pourquoi ? Parce que c'est le fait que la température n'est pas constante dans l'espace qui fait qu'il va y avoir un flux de chaleur. Dans un milieu conducteur où la température est répartie de manière homogène, il n'y a pas de flux de chaleur. Le coefficient K est appelé le coefficient de conduction thermique, et le signe au moins signifie que le flux de chaleur va des températures les plus élevées vers les températures les plus faibles, puisque nous savons que gradient de T est orienté vers les maximums de la température. Bon, oublions cette comparaison thermique, puisque nous avons dit que nous sommes à température constante, mais appliquons le même genre de règle pour sigma. L'idée de Stokes, finalement, c'est de dire que, de même que le flux de chaleur est l'opposé du gradient de la température, le flux de quantité de mouvement va être proportionnel au gradient de la quantité de mouvement. Et on écrira donc sigma sous la forme un coefficient qu'on va noter de nu, par définition de nu, que multiplie S. S étant le tenseur gradient de vitesse symétrisé, c'est-à-dire S égale 1 demi de gradient de U plus son transposé. Alors pourquoi doit-on prendre la partie symétrique du gradient des vitesses ? Parce que le gradient de vitesse en lui-même n'a pas vraiment la bonne signification physique pour représenter une contrainte, dans la mesure où il n'y a pas de contrainte pour un morceau de fluide ou de milieu continu qui se met à tourner sur lui-même. Donc il nous faut une combinaison des dérivées spatiales de la vitesse qui soient invariantes par rotation. C'est le cas de S. Alors ici, j'ai mis un signe plus au lieu d'un signe moins parce que je vous ai dit qu'en fait c'est moins sigma qui est le flux de quantité de mouvement à cause de la convention que nous avons choisie pour l'orientation de sigma. Et puis il nous manque un terme, c'est pour ça que j'ai laissé un blanc devant, parce que 2 nu S, en fait, ça représente la contrainte de cisaillement. Et nous devons rajouter devant un terme moins P fois l'identité. Voilà, ça c'est la relation constitutive qui nous manquait. c'est-à-dire pour un fluide visqueux incompressible, la loi de comportement de Stokes important de se rappeler que c'est incompressible ici, sinon on devrait rajouter des termes. Et cette loi nous donne donc sigma en fonction de S, donc de U. Mais par contre, on a une nouvelle inconnue qui est P, qui représente la pression. Donc le terme moins P identité représente les efforts normaux, c'est-à-dire l'effort de compression ou de traction. Alors dans un fluide, c'est toujours une pression, d'où la présence du signe moins devant la matrice identité. Et maintenant, nous allons injecter ceci dans l'équation qui se trouve au-dessus. Donc nous devons calculer la divergence de sigma. Alors on va calculer pour commencer divergence de moins P fois l'identité. Je vous laisse démontrer chez vous que c'est moins gradient de P. Ça c'est un petit calcul d'analyse tensorielle très simple. Et puis nous avons le terme div de 2 nu S. Alors je peux me contenter de calculer div de S parce que nu est constant. Il dépend en fait de la température lui aussi, comme la masse volumique, mais à température donnée, on le considère constant, donc on peut le sortir de la divergence. Et on voit que div de S, d'après la définition, c'est 1 demi de divergence de gradient de U plus divergence de gradient de U transposé. Alors, divergence de gradient de U, il est évident que c'est le laplacien de la vitesse, par définition de l'opérateur laplacien, qu'on fait la séance que j'ai donnée sur cet opérateur. Et quant à divergence de grade de U transposé, nous allons le calculer. Grade de U transposé, c'est la matrice d rond U J sur d rond X I, E I tensoriel E J. C'est d rond U J sur d rond X I parce que j'ai transposé. Et maintenant, je vais prendre sa divergence, c'est-à-dire dérivée par rapport à X J. Multiplié par EI. Donc nous pouvons intervertir les deux dérivées partielles, ce qui nous donne d rond sur d rond XI de d rond UJ sur d rond XJ fois EI. Et nous voyons que d rond UJ sur d rond XJ, c'est tout simplement égal à div de U. Donc ça vaut 0. Donc je peux supprimer finalement ce terme-là. Et par conséquent, nous obtenons, lorsque nous remplaçons sigma par la loi encadrée en vert, l'équation de quantité de mouvement de Navier-Stokes qui prend la forme suivante. Donc les deux termes que nous venons d'introduire sont ici. Alors le facteur 1,5, c'est compensé avec le facteur 2, je veux dire le terme qui se trouvait ici. 2 nu est venu multiplier le facteur 1,5 pour donner nu. Voilà. Analysons un petit peu la signification physique de ces termes. Le gradient de pression qui se trouve ici signifie que l'écoulement va avoir tendance à s'exercer vers les pressions les plus basses, puisqu'il y a un signe moins. De même que le flux de chaleur va des températures les plus élevées vers les plus faibles, l'écoulement va des pressions les plus fortes vers les plus faibles. Autrement dit, quand vous poussez avec un piston dans un tuyau, ça s'en va dans l'autre sens, tout simplement. Et puis nous avons le terme visqueux. Par analogie avec l'équation de la chaleur, nous voyons que c'est un terme de diffusion. Diffusion de la quantité de mouvement. C'est-à-dire que ça redistribue les vitesses dans l'espace au cours du temps. Je pense qu'il est important d'écrire quelques phrases clés. Le gradient de pression est souvent un terme moteur, c'est-à-dire le terme qui va déterminer l'écoulement. Pensez au cas du tuyau que j'évoquais tout à l'heure. Pensez aussi au cas de la météo, par exemple. La distribution spatiale de la pression dans l'atmosphère va piloter l'écoulement atmosphérique. Et puis, le terme de diffusion, c'est un terme qui va donc diffuser les vitesses dans l'espace au cours du temps. C'est-à-dire que si à un instant donné, par exemple, vous avez un écoulement qui ressemble à ceci, donc là, je dessine un champ de vitesse hypothétique, eh bien, ce terme-là va avoir tendance à transformer ce champ de vitesse qui initialement donc, était comme ça. Hein, j'essaie de faire un copier-coller de ma courbe. Il va avoir tendance à le lisser, c'est-à-dire à lui donner l'allure suivante. Les couches les plus rapides donnant de la quantité de mouvement aux couches les plus lentes, de telle sorte que le champ de vitesse s'homogénéise. Bon, et ce d'autant plus efficacement que la viscosité est grande. C'est pourquoi quand vous, par exemple, quand vous prenez une cuillère et que vous la remuez dans un récipient contenant de l'eau, vous avez un sillage, et ce sillage est d'autant plus marqué que le fluide est visqueux. On sent que vous avez plus d'influence avec votre cuillère dans un pot de miel que dans une tasse de café. Et c'est d'ailleurs plus difficile de remuer une cuillère dans un pot de miel que dans une tasse de café, ce qui signifie que vous avez besoin de plus d'énergie, donc que la force visqueuse est une force dissipative. Le fait qu'elle dissipe de l'énergie peut se voir en regardant ce qui se passe si vous changez le signe du temps. Si vous changez T en moins T, donc si vous essayez de remonter le temps, vous voyez que les trajectoires des particules de fluide vont revenir en arrière, donc le champ de vitesse va revenir en arrière. Par conséquent, D rond U sur D rond T ne va pas changer, parce que T va changer de signe, mais parce que U va changer de signe. Grade de U fois U ne va pas changer, parce que U va changer de signe, mais il intervient deux fois dans ce terme. Mais nu laplacien U, lui, va changer de signe. Hein, donc c'est le seul terme visqueux, qui change en faisant T devient moins T. Donc c'est un terme qui est irréversible. On ne peut pas remonter le temps avec ce terme-là. Voilà les principales propriétés qu'il faut retenir. En particulier, vous pouvez vous rappeler que la viscosité, c'est quelque chose qui diffuse et qui dissipe. Voilà, faites quelques exercices dans le polycopier.